France Culture.
De France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le rapport des humains aux objets a grandement changé avec l'avènement de la société de consommation. Non seulement pourvus d'une utilité ou d'une valeur symbolique, ils deviennent les avatars d'un changement de paradigme économique qui se vit sur le mode de l'accumulation des biens et des signes de richesse extérieure. Néanmoins, certains objets conservent une valeur affective, concentrant les souvenirs d'une enfance heureuse ou malheureuse, d'un événement ou encore d'un état d'esprit qui s'est depuis longtemps estompé. L'objet est aussi un véhicule de conditionnement, qui porte en lui les attentes et les oppressions d'une société ankylosée par, entre autres, les rôles de genre. Dans ce numéro de Recherche de notre temps, diffusé pour la première fois le 3 mars 1964, il est question par exemple de la poupée comme outil de préparation, voire de programmation, de la petite fille vers un rôle de mère. Guidée par les considérations d'Alain Robbe-Grillet et de Roland Barthes, cette émission mélange considérations expertes et histoires d'objets triviaux, racontés par leurs propriétaires. Elle interroge également la superposition de la valeur utilitaire de l'objet et de sa forme esthétique, qui façonne notre perception du monde en tant qu'elle participe phénoménalement à notre environnement immédiat. C'est donc une rare exploration d'un paysage qui nous semble acquis et évident, qui est proposé ici aux auditeurs, et qui résonne encore. Si les objets aujourd'hui sont aussi virtuels que physiques, ils sont toujours des vecteurs majeurs de la fabrication de sens, essence selon Barthes de l'activité humaine.
La radiodiffusion télévision française présente Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, l'homme et l'objet. Une suite d'émissions composée par Robert Valette avec la collaboration de Harold Portnoy. Aujourd'hui, l'usage et la possession des objets. Avec la participation de Roland Barthes, Alain Robbe-Grillet, Pierre Francastel et des témoignages. Assistant Jacques Devin, réalisation José Pivin.
On distingue généralement deux sortes d'objets produits par l'homme, les objets techniques et les objets plastiques. Les produits de la technique et les produits de l'art. On distingue généralement aussi trois sortes de rapports de l'homme aux objets. Les rapports d'usage, les rapports de possession, c'est-à-dire de puissance, et les rapports d'amour, c'est-à-dire de vie. Réservant ce dernier rapport, le plus grave, pour la quatrième émission qui portera ce titre emprunté à Francis Ponge, Le temple domestique, nous ne retiendrons ce soir que les deux premiers, les rapports d'usage et de possession. Mais l'objet, pas davantage que l'homme, et sans doute à son exemple, ne coïncide exactement ni constamment avec lui-même, avec sa destination, avec sa signification. L'objet, lui aussi, est inadéquat, ce qui est peut-être la preuve véritable de l'existence en ce monde, sinon en l'autre. Notez à ce propos que l'on parle de la force des choses, mais que l'on ne dit pas la force des objets. Ce qui est déterminé est plutôt vulnérable et modifiable. D'une auto, on peut faire sa maîtresse. Cela se voit dans les garages et dans les rues. Une allumette peut devenir une relique. Et la Sainte Croix, entre les mains de vandales ou d'innocents, du bois d'allumage. Une godasse peut faire un chapeau, un coupe-tête servir de cure-dent. On peut trouver un plaisir érotique dans un bréviaire, au chapitre des 11 000 vierges, bien sûr. On peut faire litière d'une constitution, bien que ce soit une structure plutôt qu'un objet. Et d'un instrument d'information, on peut aussi faire un outil d'ahurissement des hommes. Mais qui l'ignore ? Restent encore les objets dont la destination est énigmatique. Bien que ce ne soit pas tout à fait des choses. On ne sait trop ce qu'ils sont, ni pourquoi l'on tient à eux, ni très exactement d'où ils viennent. Ils ne sont pas plus exactement déterminés que l'adolescence ne l'est pour elle-même.
Vous voyez ce tout petit chien là-haut ?
Oui.
Je l'aime beaucoup, je ne sais pas trop pourquoi, il est à moitié cassé.
Mais dans quelle matière ?
Non, là, je n'en sais rien du tout. Il a une certaine couleur à la lumière, mais enfin...
Vous l'avez depuis très très longtemps ?
Oui, mes parents m'ont raconté qu'il faisait partie d'un cendrier et le cendrier s'est cassé. Peut-être qu'on arrive à évoquer assez les manèges d'un petit chien en train de jouer. Il pourrait peut-être s'animer et j'aime bien son expression aussi. Quand j'ai un objet, j'aime bien qu'il soit petit parce qu'on peut le retourner dans tous les sens, le regarder sous toutes ses formes et je trouve ça très agréable.
On peut le briser aussi en quelque sorte.
Oh, il est déjà assez.
Il a un côté un peu fragile, il est un peu à votre merci.
Oh non, pas du tout.
Pas du tout, c'est un égal.
Non.
Il y a des souvenirs d'enfance attachés à cet objet.
Oh oui, je crois, parce que quand j'étais petite, j'aimais bien jouer avec. Et puis un jour, on a fait du rangement, on l'a enterré dans un coin. Et ça fait très peu de temps que je l'ai retrouvé, alors je l'ai sorti. Puis je l'ai mis sur mon étagère, là, et il y restera.
Dans l'adolescence, la sensibilité, l'affectivité de l'enfance subsiste. Et dans la maturité subsiste parfois celle de l'adolescence.
Cet objet, j'aime le regarder bien sûr et j'aime l'imaginer. J'ai un espèce de petit banc rustique dans la chambre sur lequel je m'assois pendant de longues heures et je regarde le tableau. C'est un tableau, le cheval blanc de Gauguin, avec de l'eau qui coule, de l'eau bleue. Qui s'en va et le tableau me semble avoir une très grande profondeur. On s'y perd petit à petit à mesure que le temps passe, on s'enfonce dans le tableau. On peut très facilement s'y perdre des heures entières. Mais en même temps, il représente une espèce de jalon dans mon existence. Parce que le fait qu'il ait été dans ma chambre lorsque j'avais environ 18-20 ans, et de le retrouver à présent, ça symbolise un peu pour moi le fait que les idées que j'avais, qui étaient des idées très précises, très absolues, se trouvent n'être pas perdues. Et il me semble que le fait d'avoir ce tableau est une preuve d'une certaine réalisation, d'une forme de pensée que j'avais. Enfin, c'est très prétentieux de dire ça, c'est peut-être pas exactement ça.
Vous êtes au fond contente de constater que la vie ne vous a pas changé.
C'est beaucoup dire, mais ce que j'avais projeté, enfin je le projette toujours. Enfin pour moi c'est le symbole de ça. Parce que les objets, je leur demande énormément. J'aimerais les choisir si j'avais la possibilité de le faire en fonction d'une certaine forme d'aide qu'ils m'apporteraient. J'aimerais vivre entre des murs qui aient une certaine forme d'élan, une forme qui monte un peu. Par exemple, je n'aime pas ces murs carrés, ces murs à angle droit dans lesquels nous vivons actuellement. J'aime bien que les murs aient des formes un peu comme on aurait certaines sculptures.
Un peu gothique.
Oui, un peu. Je demande à l'objet, justement, de m'aider à vivre de la façon que j'aimerais vivre.
Monsieur Pasquier, vous êtes spécialiste des questions d'accessoires automobiles. Oui, voulez-vous me parler de ces accessoires ?
Eh bien, en accessoires automobiles, nous avons une très grande gamme d'accessoires. Suivant les saisons, ces accessoires nous sont plus ou moins demandés.
Je vois que là, vous avez toute une gamme de klaxons.
Oui, alors sur les klaxons aussi, mais ça c'est surtout saisonnier, parce que les gens cherchent surtout à mettre ces klaxons là pour l'été quand ils partent en vacances. Les jeunes cherchent actuellement des avertisseurs musicaux qui sont interdits en France exclusivement. Par exemple, vous avez des avertisseurs qui jouent le pont de la rivière Kouai, vous en avez d'autres qui jouent le chemin du paradis. Beaucoup de personnes veulent une voiture pour eux exclusivement, et alors ils cherchent à la personnaliser, surtout au point de vue extérieur, pour avoir une voiture qui ne ressemble pas aux autres.
Et comment font-ils? Qu'est-ce qu'ils achètent, ceux-là?
Eh bien, ils vont acheter, par exemple, des calandres adaptables, ou alors des enjoliveurs à rayons, des baguettes de caisse, ou alors, par exemple, des bandes de scotch pour mettre sur le toit, de manière à faire des voitures de rallye.
Est-ce qu'il y a ce que l'on appelle des gadgets, c'est-à-dire des petites choses qui, au fond, ne servent à rien, mais qui enjolivent et qui se vendent?
Oui, vous avez des gens qui vont acheter, par exemple, un F pour coller sur leur voiture et qui n'iront jamais à l'étranger, mais ils mettent simplement un F.
Est-ce qu'il y a d'autres gadgets?
Vous avez des gens qui achètent aussi des petits animaux en peluche pour mettre sur la plage arrière de leur voiture. C'est tout.
Est-ce que vous avez pu constater que ce sont certaines classes sociales qui achètent plus que d'autres?
Les gens qui achètent beaucoup sont surtout les classes moyennes.
Pourquoi?
Mais parce que ils ne peuvent acheter, par exemple, que des voitures de série, tandis que les classes très aisées achètent principalement des voitures étrangères, voitures étrangères qui ont tout l'équipement nécessaire.
Changeons de quartier. Partout ailleurs, on cherche aussi à se distinguer. Parions, et les risques ne sont pas grands, que l'on cherche à se distinguer dans d'autres quartiers, et parfois de façon aussi puérile que celle qui consiste à enjoliver sa voiture, à orner son vélomoteur de fanion. Les antiquaires connaissent bien ces clientes qui ne peuvent s'habiller que chez un grand couturier.
Il y a beaucoup de personnes, heureusement et malheureusement doit-on dire, qui ne regardent pas l'objet qu'ils achètent, mais qui achètent une signature d'objet, c'est-à-dire ils veulent une idole des Cyclades. Ils veulent un objet égyptien de telle époque. Ils ne regardent pas s'il est tellement beau et s'il leur plaît, ils le veulent parce que c'est l'objet dont on parle et qu'il est de bon ton d'avoir. Et c'est l'objet qui, ils espèrent, étant très rare et difficile à trouver, vaudra dans 10 ans beaucoup plus cher. Le goût de pareil, le goût de spéculer smell, c'est utile dans un sens. D'ailleurs, tout le goût snob a toujours été utile et c'est grâce aux snobistes qu'on peut lancer beaucoup de choses et beaucoup de peintres et beaucoup de peintures et beaucoup d'objets. Donc les snobs, qui sont un mot qui n'est d'ailleurs pas très joli en français, est très utile au point de vue artistique. Nous avons des personnes qui rentrent dans une galerie comme chez nous, ils ne regardent même pas ce que nous avons dans toute la galerie et me disent « je cherche une idole des Cyclades pour répéter ce fameux objet à la mode » ou « je désirerais une tête sumérienne ».
Nous sommes dans un très bel appartement, je vois beaucoup de meubles précieux, des tapisseries, des tapis, des porcelaines. Est-ce que vous pourriez me parler de tous ces objets, de tous ces bibelots dont vous vous êtes entouré?
Mais oui, très volontiers. Je vais vous dire tout simplement que, ayant changé de situation, je me suis mariée. Mon mari est obligé de recevoir assez souvent. J'étais donc dans la nécessité de donner un cadre à ce genre de vie. Et donc, les meubles que j'avais précédemment ne suffisaient plus. J'ai été obligée d'en acheter d'autres. Et surtout, certains objets ou certaines choses comme cette tapisserie que vous voyez là, qui rehaussent le cadre normal d'un appartement semi-moderne parisien et qui lui donne un petit peu à la fois de personnalité, de chaleur et qui marque aussi notre goût pour une certaine époque plutôt. Je dirais que c'est comme un collier de perles pour une femme ou un sac de crocodile. C'est une chose qui fait partie d'un certain niveau de vie.
Oui.
Et qu'au départ, je n'aimais pas. Et que maintenant, j'aime parce que c'est celle-là. Pas parce que c'est une autre, mais parce que c'est celle-là et que les motifs et les couleurs me plaisent. Je suis contre ce que j'appelle l'esprit bourgeois arrivé. Mais j'aime ce qui est beau et je l'aime pour deux raisons. Pour la forme et pour la matière. Et souvent, j'aime plus un objet encore pour la matière et pour la joie de le toucher si c'est un beau vieux bois ou un étain, par exemple. Moi, femme, j'achèterais un objet pour sa qualité de matériau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire?
Oui.
Tandis qu'un homme achètera un objet en fonction du besoin qu'il en a. Il y a évidemment à la base le besoin d'arranger un appartement pour qu'il puisse servir à recevoir 20 ou 50 personnes. Ça c'est évident, ça c'est une nécessité à la base. Mais on peut l'arranger évidemment de nombreuses façons, même avec ce besoin à la base. Et À partir de ce besoin, je n'ai pas cherché, nous n'avons jamais cherché la solution chère.
Et est-ce que parmi tous les objets que vous avez ici, il y en a d'autres que vous avez acquis pour étayer ce standing?
Il est certain que les tapis, par exemple, ont été acquis pour affirmer ce standing, peut-être. Je crois que il est assez bon de pouvoir ajouter certaines taches de couleur qui rehaussent un appartement, qui lui donnent de l'éclat et une certaine impression d'écrin un peu luxueux. Il est bien certain que si j'avais été dans une vie moins mondaine, deux ou trois de ces tapis, ils n'auraient pas été achetés. Je n'ai pas de tableau de maître. Mais il est évident que si j'avais maintenant un achat à faire, j'aimerais acheter un ou deux très beaux tableaux. Et que ça serait acheté en fonction de la situation que nous avons à tenir.
Et quel genre de tableau, alors, à ce moment-là, vous souhaiteriez acheter?
Par exemple, un Monet, ça me plairait beaucoup.
Chacun de nous a rencontré pareils gens qui se disent à la fois usagers et propriétaires, comblés par la réussite sociale, par la société dont ils sont les enfants gâtés, obéissant à l'ordre qu'elle leur donne. Tout, voici tout ce qu'il te faut, tu n'as plus qu'à jouir, si tu es bien sage. Le sens des objets leur est donné par la société, le milieu ou le groupe. La société, le milieu ou le groupe donnent un sens aux objets. Mais on peut contester la signification des objets, et peut-être les objets contestent-ils eux-mêmes cette signification. Alain Robbe-Grillet.
Je vois les hommes et les choses par les hommes, n'est-ce pas ? Les hommes décrivent des choses qui sont autour d'eux et qui sont en somme le décor et souvent même le conditionnement de leur vie. Enfin, tout ce monde d'objets qui nous entoure, dans les rues, dans le métro, dans la vie de tous les jours, on est continuellement entouré d'objets et tout ce que nous éprouvons du point de vue sentiment, à chaque instant, porté par des objets. Et en même temps, il semble que ces objets ne puissent jamais être assimilés aux passions qui se posent sur eux, n'est-ce pas ? Mais en restent toujours indépendants, comme si leur présence avait toujours quelque chose de plus frappant, de plus direct, de plus grave, n'est-ce pas, que leur signification humaine. Il y a tous les rapports qu'on veut, n'est-ce pas ? Il y a des rapports d'ustensilité, par exemple. Quand je me sers d'un coupe-papier pour ouvrir une lettre, voilà un rapport très juste entre un homme et une chose. L'objet est à ce moment-là un ustensile, mais des rapports avec le cœur de l'objet, n'est-ce pas, avec son âme, c'est ça plutôt que j'ai contesté. J'aime beaucoup les objets, j'aime en fabriquer même. Je travaille volontiers de mes mains, je me sers volontiers d'outils pour fabriquer des objets qui peuvent être des objets utiles ou des objets complètement absurdes, n'est-ce pas ? Mais les rapports affectifs que j'entretiens personnellement avec ces objets ne sont pas peut-être des rapports contaminants, si vous voulez. Ils restent toujours en face de moi. Ils ne cherchent jamais à passer à l'intérieur, ni moi à l'intérieur d'eux. J'ai dit que ce qui me semblait le plus surprenant, le plus violent de la part de ce monde d'objets qui nous entoure, c'est seulement sa présence, qu'il est là, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que j'ai dit le monde n'est ni signifiant ni absurde, il est tout simplement. Mais il peut à chaque instant paraître à l'homme signifiant et paraître à l'homme absurde. C'est pour ça qu'à chaque instant, on peut trouver, par exemple, dans Le Voyeur ou dans La Jalousie, des objets érotiques. Or, évidemment, l'érotisme est une qualité humaine et objet érotique, c'est déjà une alliance de mots qui implique une communication entre la chose et l'homme. Mais c'est un rapport de l'homme à la chose momentané, fragmentaire, toujours remis en question et qui n'est jamais un rapport de cœur, n'est-ce pas ? C'est un rapport de surface.
Il y a l'homme qui parle et le monde qui est muet. Mais l'homme est ventriloque. Comme vocation, parfois comme profession, il a celle de faire parler les choses. Slavik, vous êtes un spécialiste de la publicité. S'il s'agit de vendre ou de faire connaître et vendre un litre de vin, par exemple, comment peut-on le présenter ?
Il y a trois manières de le présenter. L'une avec une étiquette déshonorante. Enfin, ça n'engage que moi, dans la mesure où je peux trouver que c'est déshonorant. Mais il y a un tas de gens qui aiment cela. L'autre avec une étiquette dite bourgeoise, une étiquette promotionnelle, avec des titres de noblesse. Et la troisième, c'est l'étiquette sophistiquée. C'est-à-dire où, de nouveau, on touche et les classes populaires, parce qu'elles savent ce que c'est, et effectivement les gens très, très raffinés. C'est tout simplement un simple petit papillon sur lequel on marque presque avec une pointe bique Beaujolais Nouveau, Chirouble, Chenasse, Côte-du-Rhône, etc. Et on boucle la boucle avec cela.
Ces trois étiquettes, dites-vous, présentent absolument le même vin.
Oui, quel qu'il soit.
Et c'est un vin qui, pour les trois catégories de consommateurs, en somme, défini par ces trois étiquettes, est très différent.
Certainement, je ne sais pas quel cinéma qui se font dans la tête, mais toujours est-il qu'il y a trois catégories, même s'il le goûte.
Chacun pense boire un vin particulier, quoi. Et quel genre d'objet faisiez-vous connaître ?
Presque tous, de l'huile d'olive aux savonnettes, des savonnettes au parfum, de rochasse jusqu'aux produits populaires. Pourquoi ne pas créer un savon à la crème, comme la crème fraîche ? Pourquoi ne pas créer un savon qui ne pique pas la muqueuse pour des raisons qui échappent à personne, etc., etc. Enfin, le savonnage dans les béatitudes. Enfin, il y avait un tas d'arguments à trouver.
Qu'est-ce que vous avez promotionné qui était un succès ?
Je crois que c'est essentiellement les locaux commerciaux.
Comment se présente le problème ?
Pour moi, un commerce, c'est un peu comme un lit. Ce n'est jamais assez chaud, c'est jamais assez intime, surtout dans les pays du Nord. Or, à Paris et en France, c'est quand même assez gris, le ciel épisseux. Ce n'est jamais assez tendre, un commerce. Il faudrait faire des commerces tellement tendres et tellement intimes que les gens s'y plaisent presque beaucoup plus que dans leur propre maison, de façon à ce qu'ils soient habitués, que ça devienne des clients habitués, comme on va chez Lip ou tel ou tel endroit, et qu'on y emmène ses enfants plus tard.
La société donne un sens aux objets. Et c'est de ce sens que les hommes vivent. Et les enfants, surtout très docilement, comme de jeunes oiseaux, les yeux clos et le bec grand ouvert, avant que ne s'éveille leur esprit critique, que leur personnalité ne soit formée. Il faut cependant faire confiance à certaines très jeunes filles, même quand elles sont encore à l'âge où l'enfant est glorieux d'être tout à fait conforme au modèle.
Nathalie, vous avez quel âge ?
13 ans et demi.
Vous avez une très jolie chambre. Est-ce que vous pourriez me parler de tous ces objets que vous avez rassemblés sur votre commode, sur votre table ?
Ce que je préfère, c'est surtout ma collection de poupées, parce qu'elles viennent d'un peu tous les pays et qu'elles sont ravissantes. Et à chaque fois que quelqu'un de ma famille part en voyage, je demande automatiquement qu'on m'en rapporte une.
Et vous avez encore beaucoup d'autres choses.
Oui, j'ai beaucoup de livres parce que j'aime beaucoup la lecture. Puis... ça fait bien d'avoir beaucoup de livres dans sa chambre, je crois.
Ça fait bien ? Dans quel sens ?
On donne l'impression de s'intéresser quand même à beaucoup de choses.
Oui, quel genre de livres ?
Oh, ben, un peu tous. J'ai pas exactement une préférence pour les livres. J'assimile assez bien tout. Je colle aussi sur les murs de ma chambre les photos des acteurs et des chanteurs, notamment là, j'ai Sylvie Vartan, et puis derrière moi, j'ai Nathalie Wood, parce que c'est mon actrice préférée. Puis j'ai un calendrier de Salut les copains qui pour le moment représente Franck Alamo. Alors j'aime bien être entourée comme ça de mes meilleurs amis, si je puis dire, un peu abstraitement.
Et est-ce qu'il y a des objets que vous aimeriez avoir ?
J'aurais toujours aimé avoir une véritable maison de poupée. La poupée américaine a une maison de poupée qui n'est pas encore venue en France et j'aimerais beaucoup l'avoir, celle-là. Parce que j'aime bien tout ce qui est petit, tout ce qui est miniature... tout ce qui représente la vie réelle, mais en beaucoup plus petit.
Le jouet français est comme une tête réduite de Givaro, où l'on retrouve à la taille d'une pomme les rides et les cheveux de l'adulte. Il existe par exemple des poupées qui urinent. Elles ont un œsophage, on leur donne le biberon, elles mouillent leur linge. Bientôt, sans nul doute, le lait dans leur ventre se transformera en eau. On veut par là préparer la petite fille à la causalité ménagère, la conditionner à son futur rôle de mère. Seulement, devant cet univers d'objets fidèles et compliqués, l'enfant ne peut se constituer qu'en propriétaire, en usager. Jamais en créateur. Il n'invente pas le monde, il l'utilise. On lui prépare des gestes sans aventure, sans étonnement et sans joie. On fait de lui un petit propriétaire pantouflard qui n'a même pas inventé les ressorts de la causalité adulte. On les lui fournit tout près. Il n'a qu'à se servir, on ne lui donne jamais rien à parcourir. Le moindre jeu de construction, pourvu qu'il ne soit pas trop raffiné, implique un apprentissage du monde bien différent. L'enfant n'y crée nullement des objets significatifs. Il lui importe peu qu'ils aient un nom adulte. Ce qu'il exerce, ce n'est pas un usage. C'est une démiurgie. Il crée des formes qui marchent, qui roulent. Il crée une vie, non une propriété. Les objets s'y conduisent eux-mêmes. Ils n'y sont plus une matière inerte et compliquée dans le creux de la main. Mais cela est plus rare. Le jouet français est d'ordinaire un jouet d'imitation. Il veut faire des enfants usagers, non des enfants créateurs.
Dans ce texte ancien de quelques années, extrait de Mythologie, Roland Barthes, vous étiez exclusivement critique à l'égard de la société. Aujourd'hui, comment diriez-vous que les hommes donnent un sens aux objets ?
L'objet est à la fois utile et en même temps, les hommes dérivent toujours de son utilité quelque chose d'autre. Il y a donc une sorte de voyage de l'objet au-delà de l'usage et c'est ce voyage qui est même proprement humain. Et ces deux dérivations que, pour ma part, je vois, ce sont les suivantes. Il y a d'abord une dérivation esthétique, en ce sens que tous les objets sont finalement pensés par les hommes qui les fabriquent en fonction d'une certaine image de la beauté, même si cette image est parfaitement relative et variable selon les époques et les goûts. Même, si vous voulez, les objets ethnologiques eux-mêmes répondent d'une certaine façon à une fonction esthétique. Et aujourd'hui, on peut dire que même des objets qui nous paraissent purement fonctionnels, comme une machine par exemple, une grue ou même un boulon de machine, superposent à leur forme fonctionnelle une forme esthétique, c'est-à-dire que la fonctionnalité elle-même joue comme une valeur esthétique. Et alors, la seconde dérivation de cette ustensilité de l'objet, et c'est cela dont je voudrais parler, c'est la dérivation sémantique, c'est-à-dire que tous les objets ont du sens et ce sens ne se confond pas directement avec l'usage qu'on fait des objets. Les hommes fabriquent du sens avec les objets. Des exemples, on pourrait les prendre dans toutes les sortes d'objets que la civilisation moderne, la civilisation technicienne nous présente, et ils sont extrêmement nombreux. Prenez par exemple un objet, je pense l'objet au sens assez large, comme le vêtement. Eh bien, il y a par exemple un vêtement dont on connaît l'origine initialement extrêmement improvisée, c'était cette sorte de très vague couverture que les soldats romains se sont d'abord jetés sur les épaules pour se protéger de la pluie ou du vent. À ce moment-là, on peut dire qu'on avait véritablement, idéalement, si vous voulez, un objet purement fonctionnel, n'est-ce pas, un morceau d'étoffe qui servait uniquement à protéger. Eh bien, très vite, c'est-à-dire exactement à partir du moment où on a fabriqué cet objet en série, c'est-à-dire où on s'est mis à prendre des couvertures ou des étoffes de même taille à les fendre au milieu, à les border peut-être, eh bien à ce moment-là, on a eu un objet qui a eu un nom, c'est ce qu'on appelait la pénule, et cet objet ne servait déjà plus seulement à couvrir les soldats romains, mais aussi, en quelque sorte, à signifier leur état militaire. On peut se demander ici, qu'est-ce qui est communiqué par ces objets dont nous savons donc qu'ils véhiculent un sens? Eh bien, beaucoup de choses sont communiquées par les objets. D'abord, bien entendu, des croyances collectives, une sorte d'imaginaire collectif. Il n'y a qu'à penser, par exemple, au fait que des objets comme les maisons ou comme les ustensiles de ménage ont des formes qui varient avec les époques, par conséquent, des sens historiques. C'est ce qu'on appelle les styles. Et il est bien évident que les styles d'objets détiennent un sens qui doit être mis en rapport avec une certaine imagination de l'époque. Alors ensuite, si vous voulez, après ces croyances collectives qui sont signifiées par n'importe quel objet, il y a évidemment des situations individuelles, mais qui restent tout de même largement socialisées. Je pense ici au fait que le standing social, c'est-à-dire la place de l'individu dans l'échelle sociale, les rôles psychologiques, les modes aussi, eh bien, toutes ces valeurs sociales sont investies dans le choix que nous faisons des objets. Si nous allons acheter un objet, nous le choisissons parmi d'autres et par là même, nous emmagasinons en l'achetant, si vous voulez, une certaine réserve de sens que nous allons transmettre ensuite en maniant cet objet et en le donnant à voir aux autres, aux personnes qui nous entourent. Enfin, bien entendu, ce qui est communiqué par l'objet, c'est un ensemble de goûts profonds au niveau de l'individu, de goût qui relèverait peut-être d'une sorte de psychanalyse. Nous choisissons les objets en fonction de notre psyché la plus profonde, parce que nous avons le goût de certaines substances ou de certaines formes, et cela aussi est une manière de nous signifier, enfin de communiquer avec les autres. Nous croyons, surtout nous, hommes modernes, qui rationalisons sans toujours y réussir le monde dans lequel nous vivons, nous croyons être dans un monde d'usage, de technique, un monde purement pratique, transitif, et en fait, nous sommes, par les objets, à travers les objets, dans un monde de sens, d'image, de raison. Nous croyons, si vous voulez, ne faire que nous servir de l'objet, mais en fait, l'objet nous fait homme dans la mesure où il n'est pas seulement utile, mais où il est aussi signifiant.
Et en venant ici, vous avez peut-être gardé quelques souvenirs.
Ah ben, j'ai gardé une petite table, un petit meuble.
Pourquoi celui-là et pas un autre?
Ah ben, on ne pouvait pas apporter n'importe quoi non plus.
Et vous avez apporté aussi des petites choses personnelles, peut-être, non?
Ah ben oui, des tricots.
Des tricots, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Vous avez peut-être, je ne sais pas, une petite manie pour passer votre temps.
J'ai apporté mes boules, moi. J'ai joué aux boules. Voilà. C'est et tout.
Monsieur Bichis, vous avez complètement rompu avec le cadre de votre passé aussi.
Tout complètement rompu.
Avez-vous apporté quelque chose d'autrefois? Qu'est-ce
pas
que vous
grand
avez
chose.
Dans votre chambre, par exemple?
Ben, j'ai des photographies. Ma mère, ma compagne, tout ça. J'ai un petit poste de TSF que j'ai acheté moi-même ici. J'ai pas apporté de meubles.
Pas d'objets, pas de bibelots?
Non, pas de bibelots, je n'ai pas besoin de ça.
Vous préférez les murs bien nets comme ici?
Non, j'ai mis des gravures, j'ai mis des diplômes, parce que je suis breveté de l'école de Saumur pour l'escrime.
Et vous n'avez pas gardé un fleuret, un sabre?
Ah non. J'ai le mérite social, je l'affiche au mur. J'ai des citations du régiment, de la guerre, quoi. J'ai mis ça pour garnir, c'est tout.
Qu'est-ce qu'il y a sur votre poste de radio?
C'est ma médaille de bronze du Crédit Lyonnais. J'ai travaillé 31 ans au Crédit Lyonnais à Paris.
Et au mur?
C'est maman. C'est ma mère, oui.
Ils conservent très peu d'objets, ceux qui, à la fin de leur vie, sont entrés dans un hospice. Là, il ne s'agit plus de posséder des objets pour s'approprier le monde. Et il ne s'agit plus de les utiliser pour agir sur lui. C'est l'antichambre du renoncement, de la dépossession totale. La présence au monde est comme une survivance, et il en est sans doute peu d'heureuse. Les objets personnels n'ont plus d'autre rôle que celui de commémorer la vie passée et finissante. Dans l'ascèse mystique, on renonce à tout pour trouver ce qui est plus grand que tout et qui le contient. Cet amour-là, comme l'autre, est insatiable. Pour l'homme ordinaire, l'usage et la possession des objets, c'est la manifestation de la vie, de sa vie. L'enfant heureux a 1000 jouets, 1000 babioles et des billes plein les poches. Panurge, dans les siennes, fourrait plus de petits objets qu'aucune femme aujourd'hui n'en pourrait mettre en son sac.
En son sein avait plus de 20 et 6 petites bougettes et fasques toujours pleines. L'une d'un petit dos de plomb et d'un petit couteau, affilé comme l'aiguille d'un pelletier dont il coupait les bourses. L'autre de aigrette qu'il jetait aux yeux de ceux qu'il trouvait. L'autre de glatron empenné de petites plumes, de oisons ou de chapons, qu'il jetait sur les robes et bonnets des bonnes gens. Et souvent leur en faisait de belles cornes qu'il portait par toute la ville, aucune fois toute leur vie. Aux femmes aussi, par-dessus leurs chaperons, au derrière, aucune fois en mettaient, fait en forme d'un membre d'homme. En l'autre, un tas de cornets, tout plein de pulls et de poux, qu'il empruntait des guenots de saint innocent. Et les jetait, avec quelques petites cannes ou plumes dont on escrit, sur les collets des plus sucées damoiselles qu'il trouvait. Et mêmement en l'église, car jamais ne se mettait au cœur, mais toujours demeurait en la nef entre les femmes, tant à la messe à vêpres comme au sermon. En l'autre, force provision de hain et claveau, dont il accouplait souvent les hommes et les femmes, en compagnie où ils étaient serrés, et mêmement celles qui portaient robes de taffetas armoisies. Et à l'heure qu'elles se voulaient départir, elles rompaient toutes leurs robes. En l'autre, un fusil garni d'esmourches, d'allumettes, de pierres à feu, et tout autre appareil à ce requis. En l'autre, deux ou trois miroirs ardents, dont il faisait enrager aucune fois les hommes et les femmes, et leur faisait perdre contenance à l'église. Car il disait qu'il n'y avait qu'un antistrophe entre femme folle à la messe et femme molle à la fesse. En d'autres avait provision de fils et d'aiguilles dont il faisait mille petites diableries.
Le catalogue des objets de Rabelais a-t-on eu la curiosité de l'établir. Mais le catalogue de nos objets, certains ressentent fortement la nécessité de son établissement. Pierre-Franc Castel, vous avez dit souvent et écrit que l'encyclopédie était à refaire sur des bases nouvelles. Pourquoi? Et en substituant quelle notion à quelle autre?
Pour Diderot et pour ses collaborateurs, l'analyse des conditions dans lesquelles se fabriquait l'univers dans lequel il vivait était absolument fondamentale. C'est en montrant, d'une part, que la nature est une création humaine, sans cesse élaborée, sans cesse modifiée par l'activité et par la volonté de l'homme, qu'il posait, en général, le problème philosophique qui leur importait. Dans cette perspective, il était tout à fait nécessaire pour eux de réhabiliter les métiers et le produit de ces métiers, c'est-à-dire les objets. Les objets, les choses, c'est pour eux la justification de l'entreprise sur le plan de la pensée. Il n'y a pas que la création divine, il y a la création par l'homme du cadre quotidien de son existence, et on rejoint ainsi le problème de la dialectique du réel et de l'imaginaire, qui est un des substrats philosophiques essentiels de l'encyclopédie. Or, de nos jours, il est bien évident que cette notion est non pas dépassée, mais tellement admise, tellement reconnue, qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un problème et d'une démonstration. D'autre part, il est aussi tout à fait clair que depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années, le catalogue des objets mis à la disposition de l'espèce humaine a changé dans des proportions qu'il est difficile d'évaluer, mais que pour ma part, je n'hésiterai pas à penser de l'ordre de 70 ou 80%. Prenez dans les romans du 19e siècle, faites un dépouillement et essayez de vous représenter la possibilité pour vous d'acquérir les objets dont il est question dans Balzac ou dans Flaubert. Vous verrez que la chose est parfaitement impossible. Et en revanche, essayez de trouver dans les mêmes textes du 19e siècle une référence aux objets que vous achetez chaque jour dans les magasins que vous voyez dans la rue et dans les vitrines. Je résume en disant le cheval et l'automobile. Mais ceci est vrai à tous les niveaux, à tous les degrés. Par conséquent, tout le bagage d'informations et de connaissances sur lequel a été fondé le jeu d'imagination des générations est entièrement modifié. Il s'est de fait entièrement renouvelé. Une maison n'est plus une maison. Une lampe n'est plus une lampe. Un cheval n'est pas une voiture. On pourrait multiplier à l'infini les exemples. Et même lorsque certains objets sont en apparence identiques, ils sont produits dans des conditions tellement différentes et ils rendent des services tellement différents du passé qu'ils ne sont plus assimilables. Par conséquent, il y aura lieu, semble-t-il, à une nouvelle enquête. Il serait nécessaire d'essayer d'établir le bilan des objets à travers lesquels les hommes prennent conscience de leur action sur la nature et à travers lesquels ils entrent en conflit les uns avec les autres. Admettons par conséquent la nécessité d'un inventaire, d'un bilan renouvelé de l'encyclopédie. Mais il ne s'agit pas, bien entendu, simplement de substituer un catalogue à un autre. L'intérêt considérable qui résulterait de l'établissement d'une nouvelle encyclopédie de l'objet est tout différent. En fait, puisque chacun de ces objets est le point de rencontre de différentes représentations et de différentes intentionnalités, en étudiant l'objet, il ne s'agit pas seulement de savoir comment il a été produit, il s'agit de savoir ce qu'il représente par rapport à la société actuelle, à la société contemporaine. Et en fait, ce que nous touchons ici, c'est un immense problème. C'est le problème de savoir si la société du XXe siècle pourrait être capable de faire ce qu'a réalisé la société du XVIIIe siècle, c'est-à-dire prendre conscience elle-même, par une sorte d'anticipation sur l'avenir, de toutes les possibilités qui sont incluses dans ces assemblages d'éléments matériels que constituent les objets, ces objets qui cependant ne sont pas que matière, mais qui sont dans une très large mesure le témoignage de ce que notre époque est capable de concevoir et de créer.
La radiodiffusion télévision française vient de présenter L'homme et l'objet. Une suite d'émissions composée par Robert Valette avec la collaboration de Harold Portenois. Aujourd'hui, l'usage et la possession des objets. Avec la participation de Roland Barthes, Alain Robbe-Grillet, Pierre Francastel et des témoignages. Texte lu par Michel Bouquet et Alain Cuny. Présentation de Robert Valette, lu par Pierre Constant. Reportage, Colette Garrigue et Paul Chavasse. Prise de son, Daniel Tourcière et Pierre Simon. Assistant, Jacques Devin. Réalisation, José Pivin. C'était Recherche de notre temps.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er janvier 1964 sur France Culture.